Bonsoir frères et sœurs. Nous avons chanté des cantiques qui nous engageaient, qui proclamaient la sainteté de Dieu, et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver parce que nous croyons effectivement que la parole de Dieu transforme et est efficace dans nos vies. Je vous invite à ouvrir le Saint-Livre et nous allons faire une lecture dans le livre des psaumes. Nous allons lire un psaume, le psaume 120. Nous lisons ensemble Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du jeûner. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Ce psaume, peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, mais l'intitulé du psaume nous le dit, Cantique des degrés, nous indique que ce psaume, parmi la quinzaine d'autres psaumes qui étaient là, intitulé aussi Cantique des degrés, ce psaume était chanté par le peuple d'Israël lorsqu'il montait à Jérusalem pour fêter les diverses fêtes et manifestations qu'il a écrites dans l'Ancienne Alliance. C'était un psaume, on pourrait dire, qui devait être appris par cœur au fur et à mesure du temps. Il y avait peut-être certains versets qui restaient gravés dans le cœur pour certaines personnes. Toujours est-il que c'était à l'unisson qu'il le chantait. Et je méditais, et ce psaume est venu sur mon cœur, et la personne qui l'a écrite commence par une clé, une réalité spirituelle extraordinaire. Alors on se rappelle qu'ils sont chantés. Cet homme ne commence pas par dire « malheureux que je suis ». Cet homme ne commence pas par parler du mensonge, par parler de la paix, mais il commence de suite par dire « dans ma détresse ». Dans ma détresse. Et au fur et à mesure, on se doute, si nous sommes habitués à lire la parole de Dieu, si nous sommes là et que nous méditons, on le sait pertinemment que même en tant que chrétien, on peut vivre des temps difficiles. Des temps de détresse, des temps où peut-être il y a le doute qui essaye de s'installer. Et cet homme-là qui a écrit ces quelques versets est en train de manifester ce que lui, il a expérimenté dans sa vie. Dans ma détresse, oui, il y a des détresses, mais je crie à l'Éternel. Et c'est ça qui change la vie. C'est ça qui peut-être a changé votre vie à un moment donné. On est nombreux ce soir et on pourrait chacun lever la main en disant « Voilà, dans ma vie, dans mon existence, dans une période de vie, oui, j'ai crié à l'Éternel et il m'a secouru. » Vous savez, ce mot « crier » est souvent employé dans la parole de Dieu. Il y a ce verset que l'on connaît beaucoup, qui est peut-être sur l'un de vos signets, sur vos posters. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Et lorsque, dans le psaume 34, celui que je viens de citer, ce psaume 120, nous voyons crier, c'est quelque chose qui est profond, qui dépasse le simple fait d'hausser la voix, le simple fait de vouloir se faire entendre à une personne qui est éloignée. Lorsque nous lisons « crier », on pourrait traduire par « rencontrer ». Faire la connaissance de quelqu'un. Et l'auteur de ce psaume veut nous emmener à considérer que ce qui peut changer une vie, ce qui peut nous amener plus loin en tant que chrétien, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. Lorsque je crie, je le répète, ce n'est pas pour me faire entendre, mais c'est parce que je connais Dieu. Et parce que je connais Dieu, je sais que lorsque je vais lui adresser ma prière, il va m'entendre, il va pouvoir me secourir parce que je le connais, je lui fais confiance et je sais que malgré mes doutes, malgré mon imperfection, malgré les chemins que je prends, j'ai toujours cette assurance que si je me tourne vers lui, il va se pouvoir et il va savoir comment me sortir d'affaire. Parce que cet homme qui a écrit ce psaume a vécu des temps difficiles, des temps malheureux. Et vraiment, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était peut-être des temps, des endroits difficiles qui peuvent aussi nous arpenter, nous attraper. Nous, en tant que chrétiens, nous venons là, nous aimons prier, nous passons une heure dans la prière, nous chantons des chants spirituels, des cantiques spirituels qui nous engagent. Mais quand nous passons cette porte, est-ce que nous sommes toujours dans cette même attitude? Est-ce que nous avons toujours cette soif de connaître Dieu? Est-ce que nous avons sans cesse envie d'aller plus loin, comme nous l'avons entendu dans les prières pour ceux qui étaient là? On sent qu'on a envie ensemble de faire des progrès, d'aller plus loin, de remporter des victoires, de voir des personnes se tourner vers Dieu. Mais le danger se situe lorsque peut-être nous nous laissons prendre par la routine, l'habitude, par des questions qui nous font tourner en rond. Et cet homme, et je pense moi qu'il aurait pu commencer le psaume par le verset 5 et le mettre au tout début, et peut-être terminer par « dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie ». Et c'est le premier point que j'aimerais voir, c'est ce qui peut se passer lorsque nous, en tant que chrétiens, il se peut que, pour diverses raisons, on passe et on séjourne à Méchec. C'est ce que nous dit le verset 5. « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec ». Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Méchec. J'ai regardé dans la parole de Dieu, ce n'est pas beaucoup cité. Il y a quelques versets, j'en ai noté que deux, qui se trouvent dans le livre d'Ézéchiel. Je le lis pour vous, ne cherchez pas, pour qu'on puisse voir ensemble rapidement. Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. Là sont Méchec, Tubal et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. On apprend, en lisant la parole, que Méchec, c'était un endroit qui aimait trafiquer, qui trafiquait des ustensiles d'airain. Les ustensiles d'airain, c'était des ustensiles, comme son nom l'indique, qui étaient utilisés pour le culte idolâtre, païen. On prend une direction, vous savez, on est là, on aime le Seigneur, on aime prier, je l'ai déjà dit, je le répète. On peut aimer la sainteté, on peut aimer la parole de Dieu, mais il y a des fois dans la vie chrétienne, alors que tout va bien, on peut se laisser prendre par des pièges. On peut se laisser prendre en disant « mais finalement, je n'ai pas encore ce que je voulais ». On peut se laisser prendre en disant « mais voilà, ça fait un certain temps que j'attends, et j'attends encore un exaucement, une direction, que j'attends que Dieu réponde à telle et telle prière, et rien ne se passe ». Et comme cet homme qui a dû l'expérimenter, il se peut que on ne séjourne plus à Jérusalem, on ne séjourne plus dans la ville de Dieu, on ne séjourne plus dans le temple, on ne séjourne plus avec les hommes qui aiment la paix, on ne séjourne plus avec les personnes qui communiquent la paix, les chrétiens. On prend d'autres directions, on prend la direction de Méchec et on séjourne. Méchec, ça signifie « étirer ». Et d'autres, le sens littéral nous renvoie à d'autres racines. On pourrait traduire par acquérir, mise en valeur, tracer une piste. Et ça nous parle de ce danger dans notre vie où on n'est plus comblé parce qu'on a été heurté, parce qu'on a été blessé. On n'est plus comblé par la présence de Dieu. On veut étirer ce qu'on a du monde pour que ça puisse grandir en nous. Finalement, c'est l'inverse, puisqu'on doit sans cesse se battre entre la chair et l'esprit pour que notre chair diminue. Mais Méchec, c'est cet endroit où finalement la chair prend le dessus, où elle veut s'étirer, où elle veut s'étendre pour trafiquer, pour faire ceci et cela. Et cet homme, moi je pense qu'il connaissait le Seigneur. Je pense parce que dans ma détresse, lorsqu'il dit « c'est à l'Éternel que je crie », c'est qu'il le connaissait. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. On ne sait pas ce qui peut arriver. Alors que quelquefois on est confiant, on se dit « mais moi, jamais je vais tomber ». Jamais ça m'arrivera, ceci ou cela. Et on ne prend pas garde. On prend peut-être un chemin qui est là, au début tout va bien. Je me souviens de ce pasteur qui racontait cette expérience. Il aimait courir et il faisait son footing. Et alors qu'il courait, à un moment donné, il se disait « mais je cours bien, waouh, j'ai fait des progrès, j'arrive bien à courir, je tiens dans l'endurance ». C'est formidable comme j'arrive bien à courir. Et il n'a pas prêté attention. L'endroit où il courait, c'était un endroit humide où il y avait des feuilles mortes par terre. Et alors qu'il courait et qu'il se disait en lui-même « mais qu'est-ce que je cours bien ?» Tout d'un coup, il a glissé, il a trébuché, il s'est retrouvé à terre, à plat. Et quand il raconte cela, il dit qu'il a médité et qu'il s'est dit « mais spirituellement, c'est pareil. On peut dire qu'on marche, on peut dire qu'on court, on peut dire « mais moi, je ne comprends pas les gens qui vont séjourner à Méchec, je ne comprends pas les gens qui font ceci ou cela. » La parole nous dit de prendre garde, que celui qui est debout fasse attention, prenne garde de ne pas tomber, que celui qui est là, qui se tient spirituellement, n'oublie pas que c'est Dieu qui dirige et que c'est Dieu qui veut nous conduire, qu'il veut nous façonner, comme nous l'avons chanté, « Je ne suis qu'un vase ». Et Lucas nous l'a rappelé, et c'est vrai que le potier est là, et sur son tour, il veut façonner une pièce, et s'il décale un peu ses mains, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne va pas hésiter à recommencer. Mais je ne sais pas, et je pensais à cela quand on chantait ce chant, si vous avez déjà fait de la poterie, si vous avez déjà vu un potier, mais il y a une préparation, c'est impressionnant à voir. Le potier, avant de mettre l'argile sur le tour, va malaxer la terre. Ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, et on voit le potier faire, on se dit « mais qu'est-ce qu'il fabrique ?» Et il va façonner ensuite le vase, ce à quoi il va tirer, il va vouloir l'utiliser. Et il y a quelque chose qui est là, qui est délicat. Parce que ce qui peut être plus dangereux encore que décaler la main, c'est alors qu'il façonne la pièce, il y a une bulle d'air qui se coince à l'intérieur. La bulle d'air, elle ne va pas se voir. Le potier va être content de sa pièce. Tout est bien, tout est nickel. Mais lorsqu'il va mettre la pièce au four, avec la bulle d'air, lorsque les températures vont monter, la pièce va exploser. On veut être façonné, on veut être modelé, parce que c'est évident, je pense que tous ce soir, on veut dire « mais moi, je veux aller plus loin avec le Seigneur, je veux qu'il m'émonde, je veux qu'il me montre ce qui ne va pas dans ma vie, je veux qu'il soit là, qu'il ait cette possibilité dans ma vie de me façonner, de recommencer, de reconstruire la pièce ». Mais est-ce que nous laissons le Seigneur nous malaxer pour faire sortir les bulles d'air? Est-ce que nous le laissons nous montrer la direction de notre vie? Ou à un moment donné, nous sommes confrontés parce qu'il y a des difficultés, il y a des soucis, alors nous sommes confrontés à d'un côté une plaine verdoyante, tout est vert, tout est magnifique, et de l'autre côté il n'y a qu'un désert et... On est là, on nous dit « mais qu'est-ce que tu choisis? Dans quelle direction tu veux aller ?» Et on n'attend pas, et je ne sais pas si ça vous rappelle un passage de la parole de Dieu, et on veut choisir. D'emblée, c'est là, c'est dans notre nature, on veut choisir la plaine verdoyante. Mais ce n'est peut-être pas là où est notre place. Méchec, ça veut dire étirer. Mes amis, mes frères, mes sœurs, si nous sommes là, c'est parce que nous avons ce désir que notre chair puisse diminuer, que l'Esprit de Dieu puisse prendre toute la place, que nous puissions être dans une communion qui tend vers la perfection, pour que nous puissions être utilisés, pour que nous puissions, comme nous le dit la parole de Dieu, apporter une parole de grâce, une parole de bénédiction, une parole qui va pouvoir relever une personne, une parole qui va pouvoir bénir notre prochain, notre foyer, notre famille, nos enfants, une parole qui va faire la différence dans ce monde. Si la chair est sans cesse là, à prendre le dessus, c'est quelque chose qui va être compliqué pour nous. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec. Quelle décision j'ai prise pour pouvoir me retrouver à Méchec? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? On peut tous essayer de réfléchir. En tout cas, nous ne sommes peut-être pas tous à Méchec. Peut-être que pour certains, nous avons voulu continuer en disant « mais c'est pas là qu'est ma place ». Merci Seigneur. Peut-être pour d'autres, lorsque nous passons devant Méchec en disant « mais voilà, j'ai essayé avec le Seigneur, vous savez, j'ai essayé, ça n'a pas marché. » Ou d'autres ont dit « mais voilà, pendant un mois, j'ai voulu voir. Et pendant un mois, rien ne se passe, alors c'est que ça ne doit pas marcher. Je vais essayer autre chose. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous êtes tenté, n'allez pas à Méchec. Si vous passez à côté de Méchec, ne prenez pas le temps de vous y arrêter en disant « mais je vais voir ». Vous savez, je n'ai pas lu le verset, mais je peux vous le lire. Lorsque nous lisons « Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome ». Il y a toujours un danger d'être près de Sodome. Il y a toujours un danger de se dire « mais je vais séjourner un temps, on verra par la suite ». On ne peut pas maîtriser, on ne peut pas arriver à remporter la victoire sur le péché sans crier à Jésus-Christ. Dans notre propre vie, même si la question du péché a été réglée, on ne peut pas arriver à dire « mais je vais pouvoir me passer du Seigneur Jésus-Christ pour marcher dans ce monde. Je vais pouvoir me passer de lire la parole. Je vais pouvoir me passer de prier dans ce monde. » Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque nous lisons « malheureux », la traduction c'est « un cri passionné de chagrin ou de désespoir ». Cette personne est en train de dire « mais je suis désespéré dans ma vie, dans mon cœur. Avant de crier à l'Éternel, je suis désespéré parce que je suis au mauvais endroit, parce que je n'ai pas su saisir les plans de Dieu, parce que peut-être je me suis trompé, parce que j'ai été mal conseillé, je suis désespéré. » Mais merci Seigneur, parce que ce psaume commence par « dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce ». Et en tout cas, ce soir, moi je pense que Dieu veut exaucer, Dieu veut délivrer, Dieu veut bénir, Dieu veut nous amener à considérer toujours son chemin qui est parfait, à considérer que sa parole est toujours suffisante. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous n'avons pas besoin de méthode, et on le dit souvent. Et vous savez, des fois, on voit des choses. Ma femme encore me montrait à midi un chanteur chrétien, je vais le dire comme ça, ou un chanteur qui met le nom de Jésus dans ses chants et qui pense que peut-être qu'en s'accordant au monde, on va pouvoir peut-être toucher plus de gens. Des personnes qui pensent que finalement, on peut trouver d'autres choses pour toucher, pour gagner des âmes. Laissez-moi vous dire que le seul message qui est actuel, c'est le langage et c'est le message de la croix. C'est ce message qui délivre, c'est ce message qui guérit et qui bénit, c'est ce message dont nous avons besoin. Les jeunes, pour les études, pour le choix d'un conjoint, pour une direction, vous avez besoin uniquement de Jésus-Christ, de prier, de lire la Bible. S'il y a un jeune ce soir qui dit « mais moi je suis allé à Méchec, je me suis trompé, je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir. » Il y avait un jeune homme, vous savez, qui a voulu prendre cette direction, qui a dit à son père « mais donne-moi ma part d'héritage, je sais, j'ai tout compris, je vais aller à Méchec, je vais pouvoir faire prospérer l'argent, je vais pouvoir faire mes expériences, et tu vas voir, je vais rentrer, ça va être quelque chose de formidable. » Mais la suite de Méchec, c'est ce que nous avons lu juste après. Et on pourrait le dire, malheureux que je suis d'habiter parmi les tentes de Kédar. Il y a eu une évolution, vous savez. Il y a eu une progression, parce que si au début, il est écrit « séjourner », quand on lit « séjourner », il y a cette notion de « c'est pas définitif ». C'est pas un endroit où on veut rester. On passe juste un moment à séjourner. Mais lorsqu'on choisit de passer un temps, même si on se dit que c'est très court, à Meshech, il y a un moment donné où la suite logique, c'est d'habiter à Kedar. Malheureux que je suis d'habiter parmi les tentes de Kedar. Kedar, ça signifie obscurcir, noircir, troubler, tristesse. Malheureux que je suis, parce que j'ai pris une voie où il y a eu de la tristesse. Il n'y a que de la tristesse. Et encore une fois, ça ne concerne peut-être pas tout le monde ce soir. Mais je pense que si j'ai eu ça à cœur, c'est peut-être pour quelques-uns, pour une personne. Une personne qui peut-être pense que, comme le fils prodigue, vous savez, on prend toujours le fils prodigue pour l'évangélisation, en disant que le Père attend, et c'est vrai. Mais ça peut être là un piège pour un chrétien qui est avec le Père, et qui se dit, mais peut-être qu'ailleurs c'est mieux. Peut-être que je vais faire ceci ou cela, ça va peut-être me donner plus de joie, ça va renouveler mon engagement, je prends une pause avec l'Église, vous savez, j'abandonne pas le Seigneur, mais je fais une pause avec l'Église, je vais voir ailleurs, mais j'abandonne pas, et ainsi de suite, et on tombe dans un engrenage. Kedar, la tristesse, l'obscurité. Et lorsque nous lisons « habiter », c'est quelque chose qui est définitif. Et je suis dit, quelquefois un petit peu triste, affligé de voir des personnes, des chrétiens qui sont là, qui sans s'en rendre compte sont arrivés aux tentes de Kedar, habitent parmi les tentes de Kedar. Je suis triste parce que on sait, et peut-être bon nombre ce soir pourrait dire, si on demandait de rendre témoignage, on pourrait dire, mais voilà, le Seigneur il m'a secouru, il a toujours été fidèle. Et on sait combien Dieu est fidèle. On sait combien Dieu aime secourir. Mais on sait aussi comment le diable aime nous culpabiliser parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on a manqué le but. On sait aussi comment le diable arrive à nous mettre dans une prison, à nous dire, mais voilà, ta place pour toute ta vie, ça sera les tentes de Kedar. Toute ta vie, tu vas habiter dans la tristesse. Toute ta vie, ça sera là ton quotidien, l'obscurité, la noirceur, l'angoisse, toute ta vie. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire que le Seigneur a un projet de paix, que le Seigneur veut nous combler, veut nous diriger, veut se servir de nous, que le Seigneur veut que nous puissions être des hommes, des femmes spirituellement matures, aptes, prêt pour les œuvres qu'il a préparées pour nous, là où nous sommes, à notre travail, dans notre entourage, avec notre famille. Notre famille, je pourrais dire, mais qui ce soir a un membre de sa famille inconverti? Peut-être bon nombre de la salle lèverait la main. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire la différence? Parce que si nous avons été délivrés des tentes de Kedar, peut-être que nous connaissons des personnes qui y sont encore. Si nous avons pu éviter de nous arrêter à Meshech, peut-être nous connaissons des personnes qui y sont encore. Si nous sommes là, si nous connaissons la grâce de Dieu, si nous avons été éclairés, est-ce que ce n'est pas aussi pour pouvoir éclairer les autres, pour les amener à comprendre dans ce que nous sommes, dans notre témoignage avec nos simples mots, à amener les personnes à comprendre que Dieu est encore ce Dieu aujourd'hui en 2015 qui est capable de venir délivrer des tentes de Kedar, qui est capable de venir nous sortir de là où nous en sommes parce que nous avons pris des mauvais choix, ceci ou cela. Il est capable de nous prendre et de nous asseoir à côté des rois, de nous faire régner avec lui, de nous combler des bénédictions parce qu'il a encore des bénédictions. Il a encore des bénédictions pour son peuple. Il a encore un projet pour la ville de Toulouse, pour les alentours. Lorsque nous avons présenté cela à l'Église, à la jeunesse, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, d'aller évangéliser autour de Toulouse, que des personnes puissent comprendre que la finalité dans une vie, ce n'est pas d'habiter dans les tentes de Kedar. Et le chrétien, bien sûr, ce n'est pas sa place. Le psaume 27, verset 5 nous dit « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » C'est là la place des enfants de Dieu. C'est à l'abri de la tente, de sa tente, à l'abri du Très-Haut. C'est là où est notre place. Job nous dit, parce qu'il y a quand même, et moi je pense que cet homme qui est là, qui a connu des temps difficiles, a connu une restauration. Mais il y a eu un processus, il y a eu des étapes. Job nous dit au chapitre 9, verset 27, « Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage. » Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Si de moi-même je dis, je veux m'en sortir. Si de moi-même je dis, je veux faire ceci ou faire cela. On est vite effrayé. Si de moi-même je dis, je veux bénir, je veux sortir les gens de Kédar. Je veux sortir les personnes qui sont à mes chèques. Si de moi-même, je dis, je veux me sortir de là, on est vite effrayé. Zacharie pourra le dire autrement, ce n'est ni par la force, ni par les armées, ni par notre intelligence, ni par ce qu'on peut mettre en place, ni par nos capacités, ni par nos raisonnements, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Et moi, je pense que l'Esprit de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions arriver à saisir que la délivrance est disponible, mais que nous pouvons rester dans la délivrance, que nous pouvons rester dans la liberté, que nous pouvons rester demeurés, accrochés en Christ, que nous pouvons vivre des expériences, que nous pouvons entendre, voir nos prières être exaucées parce que Dieu le désire, Dieu le veut. Et ce qui a pu restaurer cet homme, ce qui a pu le conduire vers un chemin de délivrance, c'est lorsqu'il a compris que sa vie, que son histoire, que son quotidien, que tout ce qu'il était, c'était pas au bon endroit. Ce qui a pu changer son existence, c'est lorsqu'il a dit « Mais assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Assez longtemps, mon âme est restée en dehors de la présence de Dieu. » Assez longtemps, mon âme s'est passée de la lecture de la parole. Assez longtemps, mon âme s'est passée de Jésus-Christ. Maintenant, je veux revenir à Jésus-Christ. Maintenant, je sais que Jésus saura me combler, pourra me guider, et je veux rester attaché à lui. Une autre version dira, mon âme a été longtemps exilée. Et j'aime cette version parce qu'on comprend réellement au travers du mot exilé, que assez longtemps mon âme n'a pas été à la maison. Maintenant, je veux rentrer à la maison. Je me souviens de cette chrétienne qui était là, qui a déménagé, qui n'est plus sur Toulouse, qui a suivi les préparations au baptême. Et alors qu'elle parlait, elle racontait son histoire, elle disait « Mais c'est comme si je me cherchais, si toute ma vie je cherchais. Et là, je suis enfin rentré à la maison. Là, ça y est, j'ai trouvé mon chez-moi. » Et notre maison, notre demeure, nos tentes, c'est la maison de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. Notre vie, c'est la sainteté de Dieu. Ce à quoi nous devons aspirer, c'est manifester la sainteté de Dieu autour de nous. C'est glorifier le Seigneur. C'est peut-être admettre quelquefois que nous nous sommes trompés. Mais même si nous nous sommes trompés, la grâce de Dieu est toujours disponible pour venir surabonder. Même si nous avons pris une mauvaise direction, la grâce de Dieu est toujours là, actuelle, pour nous montrer, pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous emmener à remporter des victoires. Il y avait ce psaume également qui est venu sur mon cœur. On le connaît par cœur. Le psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. C'est là notre maison, c'est là où nous devons être. Si vous y êtes, merci Seigneur, aspirons à faire des progrès. Si vous n'y êtes pas encore, si vous êtes à Kedar, si vous êtes à Meshech, si vous êtes dans un autre endroit, reprenez le chemin. Reprenez le chemin, ne pensez pas que c'est trop tard, ne pensez pas que vous avez trop péché. Reprenez le chemin avec foi, avec obéissance. Proclamez, mais pendant trop longtemps, je suis resté avec des personnes qui haïssent la paix. Pendant trop longtemps, j'ai négligé les commandements de Dieu. J'ai négligé la parole, j'ai négligé ce que Dieu me demandait. Pendant trop longtemps, je n'ai pas obéi, j'ai été accaparé par mes pensées, par ma volonté. Mais aujourd'hui, comme cet homme a dit, je suis pour la paix. Je suis pour la paix, pour les couples, pour les célibataires, pour les aînés, les anciens, pour les jeunes. Soyons pour la paix, recherchons la paix. On ne peut pas vivre une vie de chrétien, de chrétienne épanouie, obéissant, sans avoir connu cette paix du Seigneur, sans vouloir propager la paix du Seigneur. Je terminerai. Je pensais à ce passage. Vous pourrez le lire ensemble, c'est dans Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8, verset 16, nous dit... Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité, aimez la vérité et la paix. Et la fin de ce chapitre 8... C'est là la conséquence. Lorsqu'on aime la paix, lorsqu'on est pour la paix, lorsqu'on est pour la vérité, lorsque Jésus est là, demeure en nous, lorsque nous demeurons en Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées au verset 23. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Nous irons avec vous, car nous voyons que Dieu est parmi nous. Aimons la paix, aimons la vérité. Si nous sommes dans un mauvais endroit, si nos tentes sont plantées au mauvais endroit, crions à l'Éternel. Ayons cette soif de connaître Dieu, de le connaître toujours plus, de pratiquer sa parole. Je terminerai avec juste ce verset. C'est dans le psaume 76, Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Salem, c'est paix et paisible. Et Sion pourrait traduire par héritage de paix. C'est là la demeure de notre Dieu et c'est là où doit être notre demeure. Peut-être que, je ne sais pas, vous connaissez mal la paix de Dieu. Il y a des personnes qui s'imaginent qu'ils sont en paix, qui prennent des mauvaises décisions parce qu'ils sont trompés par eux-mêmes. Si nous n'avons pas nos tentes à Salem, si nous n'avons pas notre personne en Christ, recherchons-le parce que nous avons une idée alors biaisée de la paix. Nous ne savons pas comment faire, quoi faire. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a pas un endroit, un lieu, une circonstance où Dieu ne puisse pas atteindre que Dieu ne puisse pas atteindre ou Dieu ne puisse pas intervenir. Nous devons crier à Dieu pour délivrer, pour bénir, nous devons crier à Dieu pour les personnes qui se perdent, nous devons crier à Dieu pour voir sa grâce se manifester, pour que nos jeunes, les moins jeunes, puissent connaître le baptême du Saint-Esprit, pour que d'autres puissent exercer les dons spirituels, pour que nous puissions voir ce que nos pères ont vu, ce que nos anciens ont vécu, que nous puissions expérimenter ce Dieu merveilleux qui est capable de confondre, qui est capable de parler, qui est capable de pointer le doigt là où ça ne va pas, mais non pas pour juger, mais pour restaurer, pour bénir, pour nous amener plus loin, pour nous faire comprendre que dans ce monde, il y a beaucoup de demeures, beaucoup de tentes, beaucoup d'endroits, mais une seule est la véritable. Une seule doit mériter et mérite l'approbation de Dieu. C'est la tente qui est à Salem, c'est notre demeure en Jésus-Christ. Et c'est Christ qui a tout payé pour que nous puissions accéder en son sacrifice à la croix. On pourrait prier un instant, si vous le voulez bien. Notre Dieu, nous te bénissons pour ce que tu fais, pour ce que tu es capable de faire. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous aimes d'un amour parfait. Nous te remercions parce que tu as voulu donner Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions être sauvés, restaurés dans notre vie. Pour nous qui étions peut-être au temple de Kédar, dans la tristesse, l'angoisse, l'obscurité, nous puissions aujourd'hui dire que nous sommes dans la paix, la joie, dans l'espérance, le bonheur, parce que nous connaissons ton amour. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Aide-nous à nous laisser façonner par toi. Aide-nous à ne pas étirer notre chair pour qu'elle grandisse, mais qu'elle puisse diminuer en nous, afin que tu puisses prendre la première place. Seigneur, nous voulons vivre des expériences encore nouvelles avec toi. Nous voulons, Seigneur, ne pas rester là où, Seigneur, avec des personnes qui haïssent ta paix, mais nous voulons aimer la vérité, aimer la paix, faire la différence dans ce monde, briller, rendre ce témoignage que tu es vivant. Permets, Seigneur, que notre témoignage puisse être efficace par ton Saint-Esprit. Aide-nous, secours-nous à faire ta volonté et que nous puissions, Seigneur, te glorifier à chaque instant de nos vies. Seigneur, s'il y a quelqu'un ce soir qui est bloqué, qui est cloisonné, Seigneur, dans l'obscurité ou la tristesse, délivre, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui s'est laissé tromper par le diable, par le monde, Seigneur, qui s'est laissé tromper par ses propres pensées, par lui-même, et qui est allé séjourner à Méchec, qui puisse être, Seigneur, restauré, qui puisse se repentir et dire que la paix est en toi, qu'il puisse crier à toi, Seigneur, d'un cœur sincère, d'un cœur repentant, Seigneur, et tu vas le restaurer. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu vas faire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.